Dans cette paracha Shemini, la 26e paracha du cycle de lecture de la Torah, nous avons un épisode agadique. On raconte quelque chose alors que c'est un ouvrage dans le livre Vaïkra qui est essentiellement halakhique. Nadav et Avihu ont pris chacun un encensoir. Ils ont apporté un feu profane devant Hachem. Et c'est toute la question. Et donc, la suite, c'est qu'ils sont tout simplement morts. Hachem a fait sortir un feu qui les a tués. Donc, cela pose un certain nombre de questions. Puisque Nadav et Avihu étaient les fils d'Aaron à Kodesh, à Kohen, ils étaient donc en principe en mesure de respecter les règles qui leur avaient été enseignées. Mais ils ne l'ont pas fait et l'issue, comme on le voit, est tout à fait tragique. Qu'ont-ils fait? Ils sont entrés dans le Saint des Saints, un lieu où seul le grand prêtre pouvait entrer, et encore, pas toujours, à certains moments bien précis et à certaines conditions. Et ils ont aussi apporté un encensoir avec de l'encens et un feu profane. Voilà donc le sujet, le pshat tel quel. La cause de ces morts est clairement indiquée par le sens littéral. Et par ailleurs, le Midrash, mais aussi la Guémara et également le Zohar, précisent que le service de ces Kohen était invalidé par des raisons supplémentaires. Donc il y avait une raison évidente, et c'est le sens littéral du verset qui ne peut être plus clair. Ils ont apporté un feu qui n'a pas convenu, et c'est la cause directe. Maintenant, avec le niveau drash, notamment de l'étude de la Torah, on voit que ce feu venait, donc ça aussi c'est le pshat, puisqu'on nous a dit que c'était que le feu est dans la nature du feu est dans le verset, le feu venait de charbon tiré d'un brasier domestique. Bon, certes, mais cette réponse ne peut suffire. En effet, Rabbeinu Yona de Gérone rappelle que Nadav et Avihu n'ont pas été mis à mort seulement pour avoir offert un feu étranger sur l'autel, car leur intention était d'accomplir une mitzvah. Et de plus, il est écrit, les fils du prêtre Aaron mettront du feu sur l'autel. Dans le verset 7 du livre Vaïkra, justement. Donc, on leur a ordonné de faire ceci. Donc, c'est un peu court de dire tout simplement, même si c'est totalement vrai, même si c'est le sens littéral, de dire qu'ils sont morts à la cause du type de feu qu'ils ont utilisé. En fait, le Midrash apporte d'autres éléments. Un élément important, c'est la notion de négligence dans leur service. Quand on fait un travail de cette nature, qui est de rentrer dans le Saint des Saints pour apporter de l'encens, eh bien, il y a un certain nombre de règles à suivre, et en particulier, on ne peut pas rentrer à cet endroit-là sans revêtir le vêtement requis, l'éphod. Ou bien sans se laver mains et pieds, ce qui était prescrit. Autre raison, donc on a le feu, on a la négligence dans le service, et on a une autre raison qui nous est apportée par la Guémara, leur insolence à l'égard de Moshe et de Aaron. Puisque il est écrit dans la Guémara, il est dit dans la Guémara, un jour, Moshe et Aaron allaient sur le chemin. Nadav et Avihu les suivaient, et tout le peuple d'Israël marchait derrière. Nadav dit alors à Avihu, quand donc mourront ces deux vieux, et que nous devenions, moi et toi, les conducteurs de cette génération? Alors le Saint béni soit-il leur a dit, nous verrons bien qui enterrera qui. Et Rav Papa a commenté, c'est ce que disent les gens. Il y a beaucoup de vieux chameaux qui portent sur leur chargement les peaux de jeunes chameaux qui ont été déjà abattus. Bien sûr, qui peut savoir la chronologie, qui part avant qui, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de décision d'Hachem. Donc c'était un peu présomptueux d'être persuadé qu'il survivrait à Moshe et à Aaron. Voilà, nous avons donc déjà trois raisons, le feu, la négligence et l'insolence. En fait, creusons encore plus la chose et nous voyons qu'il y avait une erreur d'interprétation. En fait, Nadav et Avihu avaient une intention convenable, mais la démarche était erronée, certainement. Il n'empêche que cette démarche trouvait son origine dans une haute spiritualité. Bon, certains nous disent, et on le verra tout à l'heure, qu'ils avaient bu du vin. Et certains commentateurs en déduisent, ils sont morts parce qu'ils sont entrés ivres dans le Saint des Saints. C'est un peu rapide. C'est un peu rapide de penser que des gens de cette carrure auraient pu faire quelque chose d'aussi manifestement contre-indiqué. Bon, alors quelle serait cette erreur d'interprétation? C'est que ils ont pu estimer que leur niveau à la suite de l'inauguration du Mishkan. Ils ont pu estimer que leur niveau avait atteint celui des patriarches, et donc qu'ils pouvaient ressentir et appliquer la volonté divine sans en avoir reçu d'ordre. Donc déjà, nous voyons que c'est une erreur d'interprétation, mais qui allait en principe dans le bon sens, sauf qu'ils se sont trompés, évidemment. Mais cet orgueil, cette erreur, c'est de l'orgueil. Car ils ont pris une décision sur la loi relative à l'offrande d'encens. Et en fait, la mitzvah de l'encens avait été ordonnée à Aaron et à lui seulement. Elle devait rester son privilège exclusif pendant sa vie. Rabbeinu Yonah de Jérôme écrit à ce propos. La faute de ces deux frères était d'avoir rendu une décision halakhique, une décision halakhique, en présence de Moshe, leur maître, en déduisant d'eux-mêmes que ce feu, en principe, doit descendre du ciel, mais que le prêtre est tenu d'en rajouter. Bref, ils ont décidé que ce qu'ils faisaient était conforme à la loi qu'ils venaient d'interpréter par une décision, par un psak. Alors, on voit que c'est un vrai problème, parce que l'on sait même que quand on est par exemple dans une réunion et l'une des personnes pose une question au rave, et si quelqu'un connaît la réponse et répond avant le rave, bon, il se met, disons, dans une mauvaise situation, parce que ce n'est pas comme ça que l'on agit. Même si on connaît la réponse, le privilège de la réponse, c'est au rave de l'endroit. Donc là, on voit que non seulement ils ont donné une réponse, mais ils ont décidé quelle serait la réponse, puisque c'est une décision. Ce n'est pas simplement une relation dans un code, d'une des lois du code. Alors nous avons maintenant l'autre élément d'explication. Nous avons vu le feu, la négligence, l'insolence, l'erreur d'interprétation, l'orgueil et cette question du vin mérite que l'on s'y attarde. On nous explique qu'ils ont bu du vin avant d'entrer dans le sanctuaire, certes. À un premier degré, on pourrait dire, ah, cette explication nous indique qu'il est dangereux de boire de l'alcool et encore plus avant d'aller à la prière ou avant pour Nadav et Avihu de rentrer dans le sanctuaire. En fait, il est interdit aux prêtres de boire toute liqueur enivrante avant d'entrer dans le sanctuaire. Donc on a là une interdiction connue. Et est-il possible que les fils d'Aaron à Cohen se mettent à enfreindre cette interdiction de manière aussi grossière? Bon, certes, la Torah n'interdit pas du tout le vin, sauf pour le nazir. Mais le vin bu raisonnablement, eh bien, on le sait d'après les Tehillim, il réjouit le cœur de l'homme. Il stimule même également, comme on le voit dans la Guémara. Mais dans des cas exceptionnels, il peut même être prescrit à forte dose, car il a la vertu de consoler ceux qui ont de la peine. Il est même la récompense des impies pour leurs rares bonnes actions. Comme l'enseigne le verset du roi Salomon dans Michelet, donner des liqueurs fortes à ceux qui méritent de périr, du vin à ceux qui ont l'amertume du cœur, au cœur. Nous voyons donc ces deux aspects. Le vin, d'une part, eh bien, c'est une récompense sur terre pour ceux qui n'ont pas fait grand-chose, mais qui méritent quand même un peu une petite rétribution, et pour ceux qui ont de la peine, qui ont de l'amertume au cœur. On a là une lecture que, bien entendu, il faut déduire. Ce n'est pas littéralement écrit dans la Torah. Donc, comment la déduire? Comme toujours, nous savons que la Torah écrite se comprend à travers la Torah orale, pour les autres niveaux que le simple pshat, et nous avons la proximité d'un mot, séchar, qui veut dire salaire, et séchar, qui veut dire liqueur forte. Donc la tradition affirme qu'ils se sont enivrés, oui, mais que signifie cette ivresse? Comment comprendre cette ivresse au point que cela a causé leur mort? Et nous avons dans le rabbin Elimin que nous explique dans Kol HaTorah que Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Akiba, Rabbi Lazar ben Azaria mettent l'accent sur ce verdict-là. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils ont trop bu qu'ils sont morts. De fait, pour comprendre, donc, on est en train de toucher le cœur du problème. Bien sûr, les autres explications étaient bien sûr intéressantes, le feu, la négligence, l'insolence, l'erreur d'interprétation, l'orgueil, certes, mais on voit que l'enseignement de Rabbi Yossi à Galilée, de Rabbi Akiba, de Rabbi Elazar ben Azaria nous disent c'est le vin. Alors, en fait, il faut comprendre ce sujet du vin. Est-ce que c'est cette liqueur, ce liquide c'est autre chose aussi. Parce que ce sujet-là renvoie à la mystique et au danger de la recherche de niveaux supérieurs de connaissance de Dieu sans respecter les conditions d'accès qui, bien entendu, ne sont pas permises à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est une chanteuse connue mondialement que l'on va se permettre d'étudier la Kabbale comme c'est arrivé, malheureusement. Bon, ces gens-là étudient quoi? Ils ne peuvent pas, n'ont pas les capacités pour entrer dans ces sujets, parce que la condition première pour commencer à pouvoir comprendre le sujet, c'est de respecter parfaitement toutes les mitzvot de la Torah, etc. Mais nous sommes donc déjà, nous voyons tout de suite que cet épisode agadique, on raconte, ah oui, enfin on a un peu de souffle, on peut reprendre notre souffle dans ce livre où l'on explique toutes les mitzvot, beaucoup de mitzvot, eh bien là on nous raconte un épisode certes dramatique, bon, mais on nous raconte. Eh bien on voit que il y a moyen de comprendre le sujet avec le sod du pardès. Un autre niveau d'interprétation. En fait, la guématria du mot vin, yayin, est identique à celle du mot sod, secret. Bon, la guématria, on sait ce que c'est, hein. Les lettres hébraïques ont une équivalence numérique, une valeur numérique, et selon les lettres d'un mot, eh bien, chaque mot a un total, et c'est là ce que l'on appelle la guématria du mot. Eh bien, le mot yayin, vin, et le mot sod, secret, ont la même guématria. C'est un des procédés qui fait partie de cette fameuse boîte à outils de la Torah orale pour nous permettre d'interpréter la Torah écrite. Donc, nos Chachamim en déduisent une relation étroite entre les deux mots qui ont la même guématria. Le vin, c'est un symbole. C'est celui de la dimension profonde et mystique du judaïsme. C'est celle des secrets de la Torah. C'est celle des niveaux de spiritualité les plus élevés. Or, Nadav et Avihu ont franchi une limite dans leur recherche de sainteté. Et nous voyons tout à coup, par ce niveau d'explication, qu'en fait, ils ont tenté d'accéder à un niveau supérieur de sainteté et, en gros, leur tentative a raté. C'est pourquoi ils sont morts. Tout le monde ne peut accéder à certains niveaux de connaissance de Dieu. Cette limite est matérialisée par l'interdiction du vin pour le prêtre, mais aussi cet accès n'est pas sans danger pour l'homme ordinaire, quand bien même ce serait un homme, Talmid Chacham, instruit dans beaucoup de choses. Et l'ivresse de Nadav et Avihu nous rappelle d'autres tentatives avortées pour accéder au monde spirituel. Bon, pensons à ce qui s'est produit avec Noar. Noar, sortant de l'arche, a planté une vigne, ce qui en soi était un grand miracle, puisque après l'expulsion du Gan Eden, la terre avait été maudite, et il a réussi à récolter du raisin et à avoir du vin très vite. Cet petit épisode nous rappelle quoi? Au niveau du sod, non pas du pshat, cela nous apprend qu'il a cherché à restaurer le monde d'avant la faute d'Adam, mais il a échoué. Et que se passe-t-il? On le sait dans la paracha noire, il a été pris par l'ivresse. Nous avons avec Nadav et Avihu une ivresse de cette nature. C'est une ivresse qui correspond à l'insuccès dans une tentative spirituel de très grande ambition. On connaît aussi le sort des quatre compagnons voulant entrer dans ces mondes supérieurs et dont le sort fut différent. Ben Azaï est mort, comme Nadav et Avihu. Ben Zona, il est devenu fou. Elisha ben Abouya, que le Talmud appelle souvent Acher, a renié la religion et il a perdu tout droit au monde futur. Enfin, Rabbi Akiva seul en est sorti indemne. Donc, voilà les principales raisons, et nous voyons que la raison du vin est tout à fait fondamentale, surtout si on la comprend dans cette perspective spirituelle. Une autre raison est avancée, c'est le fait qu'ils avaient choisi de rester célibataires pour se consacrer uniquement à Dieu. En fait, ce choix est erroné. Dans le judaïsme, ce choix-là est totalement erroné. La tradition affirme que ce n'est pas en se coupant du monde matériel que l'on sanctifie le monde. Au contraire, la recherche exclusive de la spiritualité est incompatible avec les devoirs sociaux. Il convient d'assumer sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie sociale, sa vie communautaire. La Torah ne prône ni le célibat des prêtres, ni une vie d'ermite. Tout au contraire, on doit intégrer tous ces enseignements dans les actions quotidiennes. Ainsi, les commentaires de nos sages sur Nadav et Avihu sont contrastés. Certains de ces commentaires mettent l'accent sur des points négatifs, d'autres font l'éloge des fils de Aaron. Ils nous enseignent que nous devons savoir relier les deux lectures opposées, car dans le judaïsme, la vérité est complexe. Une idée de cette complexité nous est offerte par le mot vérité. En hébreu, vérité s'écrit emet, aleph, mem, tav. Eh bien, comme on sait que les mots de la langue hébraïque expriment l'essence des choses et des notions, nous remarquons que ce mot commence par la première lettre de l'alphabet, finit par la dernière lettre de l'alphabet, donc aleph et tav, et au milieu, nous avons quoi? Nous avons même qui est une lettre médiane qui fait partie des lettres situées au milieu de l'alphabet. Donc on voit avec ça que la vérité n'est ni du début, ni de la fin, ni même du milieu, elle est tout cela à la fois. Et c'est la complexité qui ne doit pas nous effrayer parce que, elle nous permet de comprendre les choses avec finesse. Je vous remercie pour votre écoute.